Territoire d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoire d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoire d'Info. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine sur les territoires. Les ligues mineures de hockey des territoires du Nord-Ouest auront la possibilité de retourner sur la glace dès le début du calendrier sportif. On apprenait cette semaine que le hockey a été déplacé de la phase 4 à la phase 2 du plan de reprise de la santé publique. Les bureaux du gouvernement ont commencé à réaccueillir en grand nombre les employés gouvernementaux qui étaient affectés au télétravail, une situation dont se réjouit la Chambre de commerce des TNO, qui y voit une étape importante de la reprise économique du territoire. Les entreprises de restauration font partie des secteurs les plus affectés sur le plan économique par la crise pandémique. J'en ai discuté avec Étienne Croteau, propriétaire des entreprises Flavor Trader et Boreal Flavor, qui prônent l'adaptation, la résilience et la sécurité. Après l'annonce d'une fausse alerte la semaine dernière, la mine Mary River de Baffinland au Nunavut revient dans l'actualité. Deux autres de ses employés ont obtenu des premiers résultats positifs à la COVID-19. L'offre d'achat de la mine Hope Bay par la société d'État chinoise Shandong Gold a finalement été approuvée par les actionnaires de TMAC Resources. Mon collègue Denis Laure nous donne les détails. Face à la crise du logement au Nunavut, un jeune entrepreneur s'est lancé dans un concept novateur, les maisons conteneurs, qu'il espère voir s'étendre à grande échelle sur le territoire. Ma collègue Marine Lobriot en a discuté avec lui. Finalement, ma collègue Cécile Antoine Maisonnade nous parle de la 14e édition du festival Rumble and Ride. On vous en parlait vendredi dernier, une rencontre était prévue pour ce lundi 13 juillet entre Hockey TNO et l'administratrice en chef de la santé publique. C'est fait, les associations de hockey mineur des TNO pourront finalement retourner dans les arénas cet automne. Comme l'a indiqué le directeur général de Hockey TNO, Carl Colger, à Radio Taiga, le hockey intérieur sera déplacé vers la phase 2 du plan Une reprise avisée de la santé publique et sera donc permis au moment où les patinoires doivent normalement ouvrir. Toutefois, les parties de hockey, elles, ne seront pas autorisées. En bref, les joueurs de moins de 19 ans pourront retourner ensemble sur la glace pour des pratiques visant à améliorer leurs aptitudes individuelles dans le respect des règles sanitaires en place. Initialement et jusqu'à cette semaine, dans son plan en quatre étapes, une reprise avisée, la santé publique ne permettait pas la pratique du hockey avant la phase 4, soit lorsqu'un vaccin ou un traitement contre COVID-19 sera disponible. Maintenant que le hockey est inclus en phase 2, chaque association de hockey mineur pourra soumettre son plan à la santé publique pour que les jeunes hockeyeurs reprennent l'entraînement. L'association de hockey mineur de Yellowknife a déjà soumis son plan qui a d'ailleurs même été approuvé. La patinoire pourra contenir 15 joueurs, 2 gardiens de but et 3 entraîneurs en même temps pour des pratiques. Le président du club sportif de Yellowknife, Brad Anstey, nous a affirmé que ce plan a été approuvé verbalement par l'administratrice en chef. Une lettre officielle est attendue dans les prochains jours. Comme l'explique le directeur général de Hockey TNO, le retour en aréna sera comparable au retour à l'école. Il y aura une limite quant au nombre de patineurs présents au même moment sur la glace. En fonction des caractéristiques de l'aréna et des règles d'éloignement physique seront imposées. M. Colger se dit somme toute satisfait des solutions mises en place avec la santé publique. L'administratrice en chef se serait montrée très réceptive au plan qui lui a été soumis. Pour l'instant, les hockeyeurs de plus de 19 ans ne pourront se joindre à une équipe sur la patinoire. Hockey TNO serait toujours en contact avec l'administration de la santé publique pour, dit-on, voir comment les équipes d'adultes seront affectées par cette situation. La santé publique considère le hockey comme une activité à haut risque de transmission de la COVID-19 en raison, entre autres, des conditions froides et sèches des arénas qui favorisent la transmission du virus entre les individus. Les visières ne sont pas considérées comme des équipements protecteurs adéquats contre le virus, puisqu'elles risquent de ne pas rester en place durant le jeu. Le Le GTNO a offert une réponse la semaine dernière à la communauté d'affaires, plus précisément à 5 associations du secteur privé qui avaient réclamé en juin un meilleur équilibre entre les règles de santé publique et les efforts de relance économique. On le rappelle, la liste des signataires inclut la Chambre de commerce des TNO, la Chambre de commerce de Yellowknife, Tourisme TNO, la Chambre des mines des TNO et du Nunavut, ainsi que l'Association de la construction des TNO et du Nunavut. Ces derniers ont partagé un certain nombre de recommandations au GTNO pour favoriser la relance économique, incluant un assouplissement des restrictions aux frontières, mais également un retour au bureau des employés du gouvernement. Eh bien, le GTNO indique que d'ici la fin août, la plupart des employés du gouvernement seront de retour au bureau. C'est ce qu'indiquait dans un premier temps la première ministre Caroline Cochrane dans sa réponse qui a été publiée le 9 juillet. Elle indique qu'elle peut confirmer que le processus de transition sécuritaire des employés gouvernementaux dans leur bureau est enclenché dans le respect des recommandations fournies par l'administratrice en chef de la santé publique. Des propos qui ont été corroborés dans un avis signé par la ministre des Finances, Caroline Vazonek, sur le site web du GTNO. On y indique que 60 % des employés gouvernementaux seraient présentement de retour sur leur lieu de travail habituel. On y indique également que d'ici la fin du mois d'août, la grande majorité d'entre eux ne seront plus en télétravail. La Chambre de commerce des territoires du Nord-Ouest se réjouit de cette annonce. Comme l'explique Renée Comeau, directrice générale de l'association, cette annonce répond à l'une des plus importantes requêtes formulées dans la lettre des 5 associations. En bref, pour un bon nombre d'entreprises, le retour au bureau des employés du gouvernement se traduit par un retour de la clientèle.
I think one of the first positive steps is the fact that a majority of GNWT employees will be going back to work. That in itself will help bring a lot of business back to the downtown core as well as in the downtown cores in a lot of our regional centers, as a majority of those businesses rely on office staff.
Renée Comeau, directrice générale de la Chambre de commerce des TNO, indique qu'en soi, le retour des employés gouvernementaux au bureau permettra à plusieurs entreprises de reprendre les activités dans le secteur du centre-ville de Yellowknife, notamment comme dans plusieurs des centres régionaux, puisque la majorité de ces entreprises dépendent de la clientèle des employés de bureau. La première ministre a également exprimé dans sa réponse aux 5 associations d'entreprises la volonté du gouvernement d'élargir l'intervention du secteur privé dans les processus de consultation relatifs aux décisions entourant les mesures de santé publique et la relance économique. À ce chapitre, Mme Cochrane rappelle qu'un conseil consultatif d'entreprise est actuellement à l'œuvre pour l'élaboration du plan de relance économique, une reprise avisée du GTNO. Pour la Chambre de commerce des TNO, cette réponse de la première ministre représente une première étape vers une conversation plus large.
We look forward to continue working with the GNWT as well as the Chief Public Health Officer to bring forth and hopefully resolve the issues that are being brought forth by the business community.
Renée Comeau, directrice générale de la Chambre de commerce des TNO, indique qu'on apprécie la réponse fournie par Mme Cochrane. Elle indique que l'association a hâte de poursuivre son travail avec le gouvernement et l'administratrice en chef de la santé publique pour aller de l'avant et, espérons-le, résoudre les enjeux qui ont été mis en lumière par la communauté d'affaires. Selon un sondage auquel ont répondu 198 entreprises des TNO en avril et en mai, dont les résultats ont été publiés le 10 juillet, le GTNO estime qu'en moyenne, chaque entreprise ténoise a dû mettre à pied 2,5 salariés à temps plein et 2,6 salariés à temps partiel. L'entreprise du restaurateur Étienne Croteau n'a pas échappé à la crise. Celui qui a dû déménager et redéfinir ses activités affirme avoir perdu gros depuis le début de la crise et n'encaisser présentement aucun profit. Pourtant, M. Croteau tient à ce que les règles imposées par la santé publique restent bien en place. J'en ai discuté avec lui.
Bon, mais pour Flavor Traders, ça s'en vient bientôt. Moi, je pense que une réouverture dans notre nouvelle installation, va se faire début août.
D'accord.
Pour l'instant, là, c'est la nouvelle compagnie Boreal Flavor qui prend le relais. Et aussi, une dernière chose, c'est qu'on a fermé le musée définitivement. On ne retourne pas là-bas. Trop d'incertitudes. Impossible de faire une prévision budgétaire, un flux de trésorerie prévisionnel. On a décidé de d'aller vers un modèle d'entreprise beaucoup plus résilient. C'est-à-dire qu'on a, fini de construire une cuisine commerciale dans Cam Lake. Et on fait que des plats préparés congelés, des mélanges d'épices, on va faire du pain. Tout ça sera vendu au marché des fermiers ou distribué au marché des fermiers. On aura une boutique en ligne et les gens vont payer en ligne et auront juste à venir chercher leur commande au marché des fermiers.
C'est le nouveau modèle, disons, définitif aussi pour l'hiver
oui.
prochain, etc.
Définitivement. Puis, quand les catering vont revenir à la normale, là, c'est aussi le service traiteur qui est excessivement populaire. Donc, le service traiteur va revenir en force. Pour l'instant, nous, on peut rester en business, même s'il y a une seconde vague, ce qu'on souhaite pas. Mais c'est là que je parle de résilience parce que dans un restaurant, là, j'aurais pas pu refaire face à une autre vague et une autre fermeture.
Si on pense au plan, une reprise avisée, le plan Emerge Wisely, enfin, ce qui est prévu jusqu'à maintenant par le GTNO là, pour la reprise des activités économiques, entre autres, qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, moi, là-dessus, je suis assez d'accord, mais pas pour compromettre la sécurité dans les territoires du Nord-Ouest. Personnellement, j'ai des appréhensions par rapport à la capacité des territoires du Nord-Ouest de pouvoir... suffire à contrôler ne serait-ce qu'une vingtaine de cas. Moi, je n'irais pas dans ce sens-là en compromettant la sécurité publique. Moi, je suis excessivement d'avis de ça. J'ai des parents vieillissants. Puis, jamais je n'autoriserais qu'on néglige ça. Puis, en ce moment, on le néglige énormément. On le voit dans toutes les provinces et territoires en ce moment. Là. Au Québec, et surtout, on entend parler, c'est épeurant. C'est que de retour économique avec bar, restaurant, toute l'équipe, moi je veux que ça revienne, mais il y a un danger là qui est évident. Il y a des trucs un peu définitivement plus sévères au niveau du territorial pour nous. La quatorzaine d'ailleurs qui est en place et qui je pense va rester en place. Il y a une demande qui est faite pour que ce soit enlevé, mais je pense que c'est quand même important. Le reste, ben toutes les aides financières, là, moi j'ai eu droit à tout, là, j'ai tout demandé et je vais pas me comparer, je suis une petite entreprise. Avec toute l'aide fédérale et l'aide de Canard, ça donne un bon souffle. Ça va de mon côté, on roule pas sur l'or, là, on est juste au neutre en ce moment. C'est important de mentionner. On n'a pas d'argent supplémentaire. C'est vraiment on n'a pas fait d'argent, on a perdu des centaines de milliers de dollars, je vais pas vous le dire, là, ce qui est énorme. Fait que moi, il ne faut même pas que je pense à ça parce que cet argent-là ne reviendra jamais. Il n'y a aucune aide ou aucun support par rapport à des revenus et des pertes. Je veux dire, c'est clair. Là, on regarde en avant, on est sur le neutre et en ce moment, on peut faire des sous sans avoir trop de trucs à payer jusqu'en septembre. Donc, on essaie de renflouer les coffres le plus possible, ayant les salaires payés, ayant tous les frais fixes payés. C'est quand même pas banal, là.
Je veux dire, vous êtes sans doute indirectement touché là, ou directement touché par l'absence presque totale de touristes cet été. Encore là, une fois, est-ce qu'on sent que le GTNO écoute la communauté d'affaires? Là?
Du côté touristique, là, c'est je suis assez mitigé. Je vous avoue, là, c'est la même affaire. Là, regarde, si on contrôle pas nos frontières, c'est un risque. L'air. Le touriste, on me regarde, le touriste qui arrive ici, qu'il faut qu'il s'isole 14 jours. Mais qui va venir pour s'isoler 14 jours? Je sais qu'il y a des compagnies touristiques qui font vraiment dur en ce moment. Là, c'est excessivement difficile. Donc, mais c'est ça. Ils sont comme moi, tu sais. Je sais qu'ils ont des trucs à payer, mais moi, j'ai fait des demandes. Je veux dire, par mois, j'ai 5 000 $ de frais fixes à payer. Ben, il y a une partie de loyer. Le loyer n'a pas été chargé par la personne. Tu peux faire une demande pour payer ton loyer. Puis tes salaires sont payés jusqu'à l'heure de 25 000 $ par mois. Je veux dire, si tu n'es pas foutu de demander toutes ces aides-là, mais ces aides-là, vraiment, là, toutes tes dépenses les plus prenantes, ils sont payés. Donc, il n'y a aucune question ici de prendre de risques pour ma part. d'ouvrir des frontières et de faire, moi, j'y crois pas. Fait que, mais, moi, je me dis, soyez, faites vos devoirs, mettez-vous sur le nôtre comme je suis en ce moment et ça fonctionne. Je suis assez conservateur. Je suis libéral conservateur, mais je suis protectionniste. Je vais dire ça comme ça. On fait attention à nos aînés, à nos elders, puis je pense que c'est important.
C'était Étienne Croteau, propriétaire et fondateur des entreprises Flavor Trader et Boreal Flavor. Deux employés ont été mis en isolement cette semaine à la mine Mary River de Baffinland. Ils ont obtenu des premiers résultats positifs à COVID-19 et ce, après avoir été testés avec l'appareil de la mine ainsi qu'avec l'appareil Gene Expert dont s'est dotée la santé publique du Nunavut. Cette nouvelle survient une semaine à peine après qu'un premier travailleur de cette même mine, qui avait obtenu de premiers résultats positifs à la COVID-19, a finalement obtenu la semaine dernière des résultats négatifs d'un laboratoire accrédité du sud du pays. Or, l'administrateur en chef de la santé publique, le Dr Michael Patterson, a affirmé en conférence de presse ne pas avoir la certitude qu'il s'agissait bien d'un faux positif. Il pourrait également s'agir d'un cas très léger de COVID-19. Bien que ces trois travailleurs n'aient pas été en contact sur le site même de la mine Mary River, il est possible que ces trois cas soient en fait interreliés. Des discussions approfondies avec le personnel médical de la mine ont permis d'apprendre que les trois travailleurs ont pris part à un même rassemblement avant leur voyage à la mine. Aux yeux du Dr Patterson, il s'agit là de l'explication la plus vraisemblable. Moins de 5 travailleurs ont été en contact avec les deux personnes actuellement présumées atteintes de COVID-19 à la mine et sont également en isolement. Des prélèvements ont été envoyés à un laboratoire de Hamilton, en Ontario, afin de déterminer si ces deux travailleurs sont réellement atteints de COVID-19. On attend les résultats pour la semaine prochaine. Comme l'a indiqué le ministre de la Santé, George Hicks, on ne considère pas cette situation comme menaçante pour les collectivités du territoire.
I want Nunavummiut to know that the risk of any spread of COVID-19 in our communities because of these presumptive cases is very low. These individuals recently entered the territory and had no contact with any Nunavummiut. I've said this before, but Mary River Mine is not accessible by the surrounding communities right now, and no Nunavut residents are working at the mine at this time.
Le ministre Hicks indique ici que malgré cette situation, les risques de transmission de COVID-19 au Nunavut demeurent très faibles. Les employés concernés n'ont eu aucun contact avec les Nunavois à leur arrivée sur le site de la mine. Le ministre Hicks souligne également que la mine Mary River n'est pas accessible aux collectivités environnantes et qu'aucun employé Nunavois n'y travaille à l'heure actuelle. Ces cas présumés n'affectent donc pas les mesures actuelles de santé publique imposées sur le territoire, ni les restrictions de voyagement, incluant les ententes de voyage en place avec les TNO et avec la municipalité de Churchill en Alberta. Cette nouvelle est tirée d'une couverture effectuée par ma collègue Megan Durling, journaliste IGL. La société d'État chinoise Shandong Gold pourrait très bientôt venir s'installer sur le territoire Nunavois. Les actionnaires de TMAC Resources, qui possédaient la mine d'or de Hope Bay au Nunavut, ont appuyé la vente de leur compagnie à la société d'État. Mon collègue Denis Laure est allé chercher les détails. Bonjour Denis.
Bonjour Thomas, bonjour tout le monde.
Les actionnaires de TMAC Resources ont appuyé à 97% la vente de leur compagnie. Il reste quand même certaines étapes là, avant que l'acquisition soit officielle.
Oui, Shandong Gold Mining, donc la vente à cette compagnie chinoise-là, cette compagnie d'État, faut préciser, a été approuvée par les actionnaires. Les deux actionnaires principaux de TMAC Resources étaient Newmont et Capital Resource Fund, qui étaient deux compagnies très impliquées dans le domaine minier. Ensuite, la semaine après, la Cour supérieure de l'Ontario a approuvé la vente de la compagnie, mais il faudrait encore que la vente soit approuvé par la loi sur Investissement Canada qui réglemente les investissements étrangers majeurs. J'ai pas donc d'idée du calendrier pour cette approbation-là. Si les gens veulent, d'abord, on peut situer cette mine-là. La mine a commencé à produire de l'or en 2017. Selon le potentiel qui a été investigué, qui avait 3,54 millions d'onces d'or de ressources probables et avérées. Et puis, il y avait comme trois champs principaux d'exploitation, puis ils ont développé seulement celui de Doris Bay. Il restait à exploiter des champs qui seraient probablement plus important, mais apparemment la compagnie TMAC manquait d'argent pour aller exploiter ça, et puis la compagnie chinoise a dit qu'elle mettrait l'argent pour développer davantage ces champs-là, ou est-ce qu'il y a d'autres ressources qui sont là, et puis pour faire agrandir l'usine sur place.
Et la vente a été approuvée pour une valeur de 149 millions de dollars américains par les actionnaires, là, on le mentionne. Vous avez parlé au directeur général de la firme de consultation en intelligence et en stratégie politique Cercius, qui est Alex Payette. Vous avez discuté de l'intérêt que pourrait avoir le gouvernement chinois à venir s'installer, à avoir son empreinte finalement dans l'Arctique canadien.
Oui. Écoute, il y a certains intervenants du milieu qui ont dit que c'était un endroit stratégique dans l'Arctique pour les Chinois, mais selon M. Payette, lui, c'est pas ça qui compte, c'est qu'il y avait une disponibilité de la ressource aurifère qui était là, et M. me soulignait que c'est d'ailleurs la deuxième mine canadienne qui est achetée en moins d'un mois par Shandong Gold Mining. Donc, si vous voulez, on va écouter l'explication qu'il nous donne de cette action-là de la compagnie chinoise.
L'une des idées qui a été avancée par le parti, c'est justement de pouvoir accumuler des réserves d'or tangibles massives afin de pouvoir dire que le yuan est aussi, on veut, assuré par une réserve d'or qui existe comme beaucoup d'autres devises le sont encore.
C'est donc le président-directeur général de la firme de consultation en intelligence et en stratégie politique Cercius, Alex Payette.
Oui, donc ce que je suis pas un spécialiste des devises et du marché des devises, mais ce que M. Payette dit dans les grandes lignes, c'est que la Chine veut devenir indépendante de la monnaie américaine, qui est une monnaie de base internationale, et puis pour ce faire, il faut qu'il y ait une réserve d'or pour assurer la valeur internationale de la monnaie chinoise. Par contre, il m'a fait état de difficultés. C'est un marché captif, c'est eux autres qui décident tout, et c'est peut-être pas tous les investisseurs de tous les pays qui vont vouloir être prisonniers des décisions de la Chine. Ça exclut donc peut-être l'idée d'un positionnement géostratégique en Arctique canadien, mais ça, d'autres intervenants pourraient avoir une opinion contraire.
Dans l'Arctique canadien, du côté des collectivités du Nunavut, qu'est-ce qu'on en pense?
Écoutez, il n'y a pas eu de communiqué émis malgré mes diverses tentatives. J'ai pas réussi à entrer en communication avec les différents intervenants. Le gouvernement du Nunavut s'est pas prononcé sur la place publique. La mine est située dans le Kitikmeot. Il y a eu des ententes entre l'association Inuit du Kitikmeot et les propriétaires précédents de la mine, TMAC Resources, pour l'emploi, pour l'environnement, pour la formation des travailleurs. Il y a aussi une entente avec Tongavik Nunavut pour les redevances, pour l'environnement. Et tout ça. Donc, il y a beaucoup de d'ententes qui ont été faites. Et dans le contrat que j'ai vu, la compagnie dit qu'elle planifie de respecter toutes ces ententes-là. La chambre des mines du Nunavut et des territoires du Nord-Ouest, eux se sont dit très très favorables à ce qu'il y ait une continuité minière dans le Nord, évidemment, mais leur approbation de cette transaction-là est quand même un peu assujettie à ce que soient respectées les ententes préalables pour les redevances versées au gouvernement du Nunavut. Du Nunavut, aux associations locales, etc. Ça va. Je pense que la transaction ne sera pas vraiment opérationnelle avant la fin de l'année. Est-ce que le gouvernement fédéral va intervenir d'ici cette date-là? On ne le sait pas encore. Il faut rappeler qu'avant que la crise de la COVID impose des restrictions, il y avait 345 emplois à la mine de Hope Bay et potentiellement ce nombre d'emplois-là pourrait augmenter. Faut rappeler aussi que la compagnie Shandong Gold Mining s'est engagée à investir plusieurs centaines de millions de dollars pour exploiter ces champs orifères-là et pour mettre à jour l'usine de traitement.
Eh bien, merci beaucoup, Denis Laure. On le rappelle, vous avez signé un article dans l'édition du 10 juillet du journal L'Aquilon sur la question. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Thomas. Bonjour tout le monde.
Le conteneur, un outil essentiel du transport maritime, est bien souvent détourné de ses fonctions d'origine. On l'utilise fréquemment comme lieu d'entreposage, par exemple, mais sa structure simple peut également en faire la maison idéale. C'est un concept qui a réuni deux entrepreneurs qui, face à une importante crise du logement dans le Grand Nord, travaillent ensemble sur l'élaboration de ces logements innovants et prometteurs. Ma collègue IJL, Marine Lobriot, signe un article à ce sujet dans la dernière édition du journal L'Aquilon. Bonjour Marine.
Bonjour Thomas.
On pourrait voir des maisons faites à partir de conteneurs dans le paysage Nunavoie très bientôt.
Oui, en fait, l'idée des deux entrepreneurs, c'est de recycler les conteneurs à usage unique qui sont arrivés de Chine pour les transformer en maisons. Donc Alex Cook, c'est un jeune entrepreneur Nunavois qui souhaitait construire un logement qui était novateur et ergonomique pour le Nunavut. Donc pour réaliser son projet, il avait besoin de structures métalliques particulières. Et il s'est donc associé à Jason Alter, un concepteur industriel de renom qui avait déjà réalisé ce type de construction. Ils ont travaillé ensemble. Et ils ont réalisé cette maison complètement optimisée pour les territoires nordiques dans une démarche en plus éco-responsable.
Éco-responsable et vraiment dans un mode d'économie circulaire. Je le mentionnais, au Nunavut, il y a en ce moment une importante crise du logement. Donc, les maisons Kamak, c'est le nom du projet, là, se présentent vraiment comme une solution viable.
Oui, tout à fait. Ils souhaitent proposer ce style de maison et surtout que le concept soit repris par d'autres constructeurs, en fait, dans un effort collectif pour créer des logements au Nunavut. J'ai eu l'occasion d'en parler, on en a discuté tous les trois lors d'un appel téléphonique.
The idea for us to be one of many producers is very important. There's no one builder who will supply all of the housing needs for the north, and that we're just really part of a large solution that has to happen because of the requirement and really for the housing emergency that exists currently in the north. And we do our best to build something that will be around in 50 or 100 years.
On entendait ici Jason Alter, concepteur industriel, qui parle vraiment d'un projet à long terme pour le territoire. On cherche à installer des logements conteneurs pour les 50 à 100 prochaines années. Monsieur Alter est aussi bien conscient que la solution devra s'étendre au-delà de cette entreprise en particulier. Bref, Marine, on cherche à créer un mouvement important dans le Grand Nord.
Oui, Thomas, parce que comme l'explique son collègue Alex Cook, les besoins en matière de logement sont criants au Nunavut et c'est une crise qu'on est loin d'avoir prise en main. Je vous propose de l'écouter à nouveau.
Even if we started building houses today and in say 3 years we built 100 houses, we would still need to build 3,900 more houses just to meet the demand. The goal here is that more contractors will adopt a certain, this similar style of building, and so that we can all work towards a common goal together, which is, of course, solving housing insecurity in the north.
Ici, l'entrepreneur Alex Cook nous explique que même si on parvenait, par exemple, à construire 100 maisons conteneurs dans les trois prochaines années, pour répondre à la demande, il faudrait en avoir bâti environ 4 000. On ne peut donc pas être les seuls entrepreneurs à s'y mettre. L'objectif, c'est donc que plusieurs constructeurs s'engagent aussi vers ce but commun et adoptent le style de construction de maisons conteneurs. Et Marine, c'est le genre de projet qui ferait d'une pierre deux coups, en quelque sorte, le considérant également le fort taux de chômage au Nunavut.
Oui, la construction des maisons Kimak va créer des emplois dans le futur. Pour Alex Cook, attirer une main-d'œuvre qualifiée locale, c'est aussi une partie de la solution pour le chômage et pour l'économie nunavoise.
Even if we started building houses today, and in say 3 years, we built 100 houses, we would still need to build 3,900 more houses just to meet the demand. The goal here is that more contractors will adopt a certain, this similar style of building, and so that we can all work towards a common goal together, which is, of course, solving housing insecurity in the north. So one thing that a capital project like this, like a large capital project like this, it could be useful for is for developing, you know, that local workforce, developing, a northern-based trade workforce of, you know, construction workers, some plumbers, electricians, framers, so on and so forth, so that, you know, when these houses are being built, this money is finding its way into the northern economy. So building that local workforce is very important, for the success of, solving housing insecurity in the north. It allows companies to reduce their overall fixed and variable costs of doing business, which means that their product, at the end of the day, can be offered at a cheaper price.
Alex Cook, jeune entrepreneur Nunavoie, nous explique qu'un projet de cette envergure devra permettre de développer une main-d'œuvre spécifique au Nunavut. On veut que l'argent généré ici y reste, que les emplois y soient établis, qu'éventuellement il soit rentable aussi pour les entrepreneurs de construire des maisons conteneurs et que ces maisons puissent être achetées à prix abordable. Marine, quand est-ce qu'on va commencer à avoir des maisons conteneurs au Nunavut?
Alors, il faudra encore patienter un peu. Les travaux de la première maison Kamak sont prévus pour l'automne 2021 à Baker Lake.
Marine Lobriot, journaliste IGL, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Thomas.
On a droit ici à une performance du duo Natasha Duchesne et Taylor Syracuse qui étaient dans la vieille ville hier dans le secteur Woodyard de Yellowknife pour l'enregistrement d'un podcast d'une balado-diffusion produite dans le cadre du festival Rumble and Ride. Ma collègue Cécile Antoine Maisonnade est là pour nous en parler. Bonjour Cécile.
Bonjour Thomas. Donc, c'était une performance qui a été enregistrée pour un podcast. Il y a 5 épisodes en tout qui sont produits par Jana Graham et Aidan McMahon, donc dans, comme tu le disais, dans le cadre du festival Rumble and Ride qui a lieu dans le Old Town, dans la vieille ville de Yellowknife. Donc cette année, c'est la 14e édition du festival et évidemment, à cause de la Covid, tout est en virtuel cette année. Donc il y a énormément, donc il y a un podcast qui est tout le long du festival, donc jusqu'au 2 août. Et ensuite, il y a beaucoup de performances d'artistes, des concerts. Il y a eu aussi la création d'une histoire pour enfants en bande dessinée par l'auteur Alison McCreesh en direct sur la plateforme Zoom. Et il y a aussi eu des performances d'artistes locaux comme Nara Dapilos ou Ryan McCord. Voilà, donc tous les épisodes, toutes les performances d'artistes sont à retrouver sur le Facebook de Rumble and Ride. Et voilà, le festival est jusqu'au 2 août.
Parfait, on doit le mentionner aussi, notre collègue, votre hôte de l'émission Bonjour là, Baptiste Foisy, a d'ailleurs participé, entre autres lors du dernier enregistrement, à titre de poète. Sinon, Cécile, toujours sur la page culturelle, les cinémas du territoire devraient rouvrir leurs portes là, vraiment très bientôt, là, dans les prochaines semaines.
Au mois d'août, oui. Alors, en fait, donc, il y a 2 cinémas hein, dans tous les territoires du Nord-Ouest. Donc, il y a le Riverview Multiplex à Hay River et le Théâtre Capitole à Yellowknife. Alors, du côté de Hay River, Michelle Schaub, qui est la responsable depuis quelques semaines du Riverview Cineplex, normalement, le cinéma devrait rouvrir en août. Pour rappel, juste la phase 2 du plan de relance permet au cinéma de réouvrir, mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour les cinémas de la région de pouvoir, avec toutes les mesures sanitaires et de sécurité, de réouvrir parfaitement. Et du côté du Capitole, on l'a appris hier, Chris Woods, qui est le responsable de la salle, nous a appris sur Facebook qu'il allait possiblement y avoir une réouverture vers la mi-août. Mais c'est encore assez incertain, mais on a une certaine piste. Et concernant la programmation,
oui.
C'est assez important parce que l'industrie cinématographique est un peu en berne en ce moment puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de production de films à cause de la Covid. Donc le choix de Michel Schaub, c'est de passer des vieux classiques. Donc elle m'a cité quelques titres comme Jurassic Park, Retour vers le futur ou encore les Goonies pour avoir un contenu un peu plus rétro qu'à l'ordinaire, selon ses mots.
Donc, amateurs du 7e art, on va enfin pouvoir sortir de nos salons. Cécile Antoine Maisonnade, merci beaucoup.
De rien, Thomas.
C'était vos nouvelles des territoires. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'initiative du journalisme local. Territoire d'info fait relâche la semaine prochaine. On vous retrouve donc dans deux semaines, le vendredi 31 juillet. D'ici là, profitez bien de l'été. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.